partir de quel moment savez-vous que vous avez atteint votre vitesse de croisière? Je veux dire, en matière de sport, en matière de travail, ça peut être aussi dans vos hobbies, mais à quel moment vous avez atteint cette vitesse-là, vous êtes revenu à cette vitesse-là, peut-être après une pause. Comme par exemple, après un retour de vacances, c'est normal, on revient au travail, on a encore un petit peu la tête ailleurs. Faut se réhabituer à ce rythme-là. Et ça vous prend combien de temps à repartir la machine? Et aussi, à partir de quel moment on a atteint un niveau acceptable lorsqu'on effectue un travail, donc lorsqu'on se remet à une tâche qu'on faisait auparavant ou lorsque on effectue une nouvelle tâche. Évidemment, depuis que j'ai recommencé à faire du podcasting, je me pose des questions par rapport au podcasting. Je suis retourné en arrière, je suis allé écouter quelques vieux épisodes et je me suis posé la question, à partir de quel moment j'ai atteint un niveau acceptable? Ce niveau-là n'est pas le même aujourd'hui qu'il était il y a quelques années. À un moment donné, j'ai carrément enlevé de la carte mes 6 premiers épisodes parce que je jugeais qu'ils n'étaient pas d'un niveau acceptable. Puis les autres, malgré des défauts, je trouvais que c'était correct. C'est drôle, j'écoute aujourd'hui et j'enlèverai probablement au moins une douzaine d'épisodes au minimum pour que ce soit pas parfait, mais évidemment correct. En écoutant tout ça, il y a vraiment un épisode à un certain moment et c'est drôle parce que à mon oreille, à moi, le changement est très fort. Il y a eu un certain moment, puis c'est pas une question de micro. J'ai changé de micro quelques fois, puis quand le changement s'est opéré, ça fait un petit bout de temps que j'avais le micro que j'ai aujourd'hui. Mais il y a vraiment un moment où est-ce que je me suis dit, OK, j'écoute le podcast précédent, j'écoute celui-là, et dans celui-là, il y a quelque chose qui a changé. Il y a vraiment la magie à opérer et que j'ai commencé à faire le podcast que je fais aujourd'hui et à devenir l'animateur de podcast que je suis aujourd'hui. Et un autre signe de ça, que je suis revenu ou que je commence à revenir au niveau d'auparavant, c'est quand on commence à m'appeler pour des projets de podcasting, c'est là que je me dis, tiens, peut-être que j'ai repris le bon rythme. Mon nom est Sylvain Grandmaison et vous écoutez le 90e Québec en balado-diffusion.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient
se mordant la bouche, le goût en revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait, et qu'on soit là ou pas, quand même on dit. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Oui, vous avez peut-être reconnu la voix de Alain Bachung de cet album posthume. En fait, l'histoire de cet album-là est assez intéressante, cet album-là qui s'appelle « En amont », qui a été lancé en 2018, soit 9 ans après le décès d'Alain Bachung. C'est le deuxième album posthume. Le premier, c'était « L'homme à la tête de chou », une reprise de Gainsbourg. Et puis, c'était sorti, je crois, vers 2011 à peu près. Donc, une couple d'années après son décès. Et puis, on pensait qu'il n'y avait plus rien dans les cartons, que vraiment, il n'y avait aucun matériel nouveau, original, des enregistrements inédits, tout ça. Et puis, la femme de Bachung a retrouvé ces pistes-là. En fait, les pistes avaient été écartées du dernier vrai album de studio d'Alain Bachung. Lui, ça, dans sa façon de travailler, c'est qu'il écrivait plus de chansons qu'il en avait besoin. Puis après ça, il sélectionnait, pas tant pour « ça c'est une excellente chanson, ça c'est une moins bonne chanson ». En fait, sur l'album posthume, il y a d'excellentes chansons. Lui, il sélectionnait pour faire un tout cohérent, pour aller un petit peu dans l'état d'esprit qui était au moment où il faisait l'album. Il y a cette chanson-là, Immortel, qui a fait, qui voulait mettre sur l'album originalement, sauf qu'il trouvait ça trop pompeux. Il trouvait ça trop pompeux parce que il savait déjà qu'il y avait le cancer quand il a enregistré cet album-là. Il savait pas que ça allait être peut-être mortel, mais il savait atteint et de se dire immortel, puis de trouvait que c'était un petit peu trop. Donc, il a écarté des chansons comme ça, puis il y a certaines chansons qui sont des petits bijoux. Il y en a d'autres, qui sont un petit peu moins intéressantes, mais c'est l'univers de Bachung. C'est sûr qu'il a enregistré certaines parties d'instruments, mais c'est pas lui qui a fait les arrangements, qui a supervisé la production. Fait qu'on sent à ce niveau-là que sa présence aurait été un peu meilleure. Ça aurait fait encore des meilleures chansons, mais je pense qu'il aurait pu faire un vrai album cohérent si lui l'avait édité lui-même. il s'est passé des choses depuis les dernières semaines avec la réanimation de mon podcast. Ben, tout d'abord, j'ai le goût de faire de plus en plus d'entrevues et j'en prépare, donc ça s'en vient, il y en aura d'autres. Si vous avez écouté celle de Jean-François Poulain au dernier épisode, ben, sachez que ce ne sera pas le dernier. J'ai eu beaucoup de feedback, évidemment, surtout sur Facebook, surtout dans mes publications personnelles, mais aussi sur les publications sur le groupe Facebook. Donc, si vous voulez vous abonner, allez sur Facebook, tapez « Le Québec en balado-diffusion », vous allez trouver un groupe privé, ça dit le podcast de Sylvain Grandmaison, ces petites choses-là. Il y a aussi deux choses qui se sont passées qui m'ont vraiment surprise. Je m'attendais que ce genre de choses-là puisse se passer parce que c'est arrivé dans le passé. Mais me faire appeler au bout d'une semaine, une semaine et demie, pour du coaching en podcasting, parce que la personne a écouté mon podcast, je veux dire, ça, j'ai été vraiment surpris et avec des commentaires sur mes derniers épisodes. Donc, c'est le fait que ça a été ravivé, que ça a suscité l'intérêt. Je me suis aussi fait contacter pour un projet de podcast à venir comme consultant. Je n'ai pas de détails pour l'instant. C'est bien intriguant, c'est bien le fun. Je ne sais pas ce qui va en découler de tout ça, mais ça m'a un peu surpris, ça m'a un peu abasourdi. Et en même temps, ça m'a fait dire « Oui, je suis de retour, je suis là ». Évidemment, il faut toujours commencer par le segment le plus attendu de mon émission, toujours le carburant de la semaine. Et puis, vous m'avez peut-être entendu dans les derniers épisodes parler du fait que le marché s'en va vers la canette et ça fait des moins beaux sons. Donc, je me suis trouvé une bière en bouteille. J'aime bien la bouteille, j'aime bien la saveur de la bouteille. La bière est le goût n'est pas tout à fait pareil. J'aime bien aussi les petites bouteilles. Il y en a de moins en moins. C'est dur de trouver de la bière de microbrasserie. Puis je comprends pourquoi ils le font. Là. C'est épouvantablement long à embouteiller quand on a une petite ligne de production. Exactement, pas comme chez Molson ou Nibiru, des joueurs majeurs. Mais en même temps, c'est vraiment apprécié, c'est vraiment agréable. Ce que j'ai, c'est une bière de Unibrew qui s'appelle la Lune de Miel. Ça fait 8% d'alcool. Ça dit que c'est une bière ambrée forte sur lit. C'est une bière que j'ai entendu parler, que je connais, mais que j'ai pas encore goûté. C'est une bière qui est plus saisonnière. Je l'avais vue l'an passé. Et puis, j'ai pas du tout regardé. Je suis pas allé sur leur site web. J'ai aucune autre information à part que c'est une bière forte dans laquelle il y a du miel. Donc, ça dit bière refermentée en bouteille. Bière ambrée de style belge. Et la couleur, c'est SRM8. Ce qui est ambré, mais pas très foncé quand même. Et le IBU, donc l'International Bitterness Unit, ça fait 22. 22, c'est assez doux. Honnêtement, il y a quand même certaines bières commerciales que ça s'approche de ça. Donc, c'est à peine amer. La bouteille est très chic, évidemment, c'est une bière de Unibrew, mais le haut, il y a vraiment une capsule en aluminium. Donc, je vais la déboucher dans vos oreilles. Et j'aime ça. Une bouteille qui se débouche. Puis aussi, l'effet que ça fait, il y a un petit peu de condensation quand on débouche une bouteille de bière, quand on la décapsule. Et c'est comme s'il y avait un petit peu de fumée. En réalité, je ne pourrais pas l'expliquer en détail, mais le principe, c'est que ça forme, c'est le même principe de condensation que quand un nuage se forme. C'est ce que j'ai lu par le passé. Je vide ça dans vos oreilles. Oh, ça mousse passablement. Je n'ai pas versé tant que ça. Mon verre est à peu près au tiers, puis il y a un tiers de mousse et un tiers de vide. Ça retombe tranquillement. Donc oui, c'est vraiment à peine ambré. Là. C'est un peu jaune-orangé. Évidemment, c'est voilé. C'est une bière de Nibiru refermentée en bouteille. Oui, ça sent assez bon comme certaines bières belges. des petits arômes floraux de fruits aussi. Et je vais goûter ça. Non, ce serait pas vilain. Je ne sais pas s'ils mettent de l'écorce d'orange comme dans certaines bières belges, mais il y a un petit arrière-goût de ça. Petit arrière-goût, le miel n'est pas très présent, je dois dire. On le sent plus à la deuxième gorgée. Et il y a une amertume quand même qui est présente, qui vient faire un équilibre parce que j'ai l'impression que ça serait un peu trop sucré. Moi, j'aime bien ce genre de bière-là, qu'il y a de moins en moins au Québec. Là, les microbrasseries sont toutes parties sur les styles de bière très américaines, très houblonnées, avec vraiment là, différents types d'expérimentation. C'est sûr qu'ils expérimentent aussi beaucoup avec certaines bières européennes, donc des saisons, des bières un petit peu plus funky. Sauf que moi, j'aime bien les styles classiques, certains styles classiques. Je trouve qu'il n'y en a pas assez au Québec. Bien souvent, on nous les vend un petit peu trop cher. Tant qu'à boire une bière de type belge à 7$ pour 500 ml, ben, je vais aller à l'SAQ me chercher une vraie bière belge qui va me coûter 3$ et quelques pour 350 ml. Donc, un peu moins cher pour la vraie affaire. Donc, essayez-la. Là, ça s'appelle la lune de miel de Unibrew. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de la durée des podcasts qui est en déclin. Je vais vous parler de Third Coast, qui est un événement de podcasting. Je vais vous parler de The Moth. Je vais parler de prix Pulitzer en podcasting. Oh oui! Je vais vous parler d'un nouveau service de Québécois qui s'appelle Cube Music. Et aussi, je vais terminer ça en vous parlant de deux sujets à propos de Spotify. La durée du moyenne des podcasts serait en déclin, en fait, selon une recherche faite par Mégaphone sur les balados qui ont occupé le top 200 au cours des 5 dernières années sur Apple Podcasts. Donc, c'est sûr, ça ne couvre pas toutes les plateformes de podcasting, mais bon, c'est quand même un bon indicateur. On dit que les épisodes se sont graduellement raccourcis pour rentrer dans la catégorie des 10 à 30 minutes. Donc, de plus en plus, les podcasts qui étaient un petit peu plus longs auparavant descendent sous la barre des 30 minutes. Il y a aussi Dan Meisner de Pacific Content. Dan Meisner, qui est un ancien de la CBC que je connais. C'est un gars que j'ai côtoyé à plusieurs reprises dans des événements. Un gars vraiment ultra sympathique. Il travaille pour une compagnie qui s'appelle Pacific Content sur la côte ouest. Donc, il a fait une étude qui montre que la tendance générale des podcasts est à se raccourcit, et ça depuis 2016. Et ça semble s'accélérer de plus en plus depuis un an. Donc, il ne faut pas s'en faire quand même, parce que la durée moyenne des émissions, selon lui, serait toujours autour de 41 minutes. Mais c'est une tendance qui est lourde. Qu'est-ce qui explique ce raccourcissement-là? Il y a beaucoup de choses. Probablement, la diversité de l'offre des podcasts fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses à écouter. S'il y a beaucoup de choses à écouter, bien évidemment, le temps disponible par les auditeurs est moins grand. Il s'amenuise. Il est divisé, en fait, sur plusieurs émissions. Donc, une bonne façon de s'assurer que les gens vont écouter un petit peu plus, c'est peut-être de raccourcir, faire des émissions un peu plus courtes. Évidemment, le temps pour l'écoute de podcasts parfois diminue, je veux dire de façon globale, parce qu'il y a tellement d'offres de contenu, ce qui fait en sorte que quand on a du temps, on n'écoute plus nécessairement des podcasts. Peut-être que des fois, on va plus sur Netflix, on écoute notre musique sur Spotify, etc. Donc, il y a un peu de ça. La multiplication des plateformes d'écoute fait en sorte que vraiment ça se segmente, ça se divise. J'ai hâte de voir c'est quoi qui sera comme tendance dans les prochaines années. Mon feeling, c'est que ça va continuer à diminuer, que la moyenne va peut-être diminuer ou se stabiliser autour des 30 minutes d'émission, mais tout ça reste à voir. Je vous ai mentionné Third Coast tout à l'heure, qui est un événement qui se tient à Chicago. J'ai dit que c'est un événement de podcasting. En fait, c'est plus un événement de création audio qui a lieu à chaque année. Donc, cette année, ça aura lieu à distance, ça aura lieu sur le web. Ils en ont fait l'annonce, c'est déjà annoncé. J'ai déjà mentionné cet événement-là par le passé dans mon podcast. Je me rappelle parce que j'avais prévu y aller et finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Donc, c'est un événement qui est extrêmement couru dans le domaine de l'audio. Les organisateurs effectuent en ce moment des sondages pour planifier comment vont se dérouler toutes les sessions virtuelles. Donc, c'est sûr que la situation de la COVID change beaucoup de choses, pas simplement pour les spectacles, pour les pièces de théâtre et autres événements. En fait, artistiques, ça touche aussi beaucoup les conférences. Ça va toucher énormément tout ce qui se passe en podcasting. Moi, je l'ai dit souvent, le podcasting, le gros fun de ça, c'est pas simplement d'en faire, c'est de rencontrer les gens qui en font. La communauté du podcasting est très vivante. C'est du monde le fun, c'est du monde généreux, c'est du monde amusant. Donc, je m'inquiète un peu pour PodCamp Toronto. Évidemment, c'est encore loin, PodCamp Toronto, ça a toujours lieu fin février. Mais cette année particulière, ça sera le 15e anniversaire de PodCamp Toronto, croyez-le ou non. En fait, le 15e, que dis-je, le 10e anniversaire, pardon. Donc, ça risque de changer les choses. On espère que les choses se seront tassées un petit peu, rendues là. Sinon, je souhaite qu'ils peut-être le fassent un petit peu plus tard dans la saison. Comme ça, augmenter les chances que ça se passe en live plutôt qu'en différé. Il n'y a pas seulement les événements qui se font à distance et en différé et en mode confinement. En fait, il y a The Moth qui est en mode confinement. The Moth, c'est un célèbre podcast. En fait, ça a souvent fait le top 10 des podcasts sur les différentes plateformes. C'est un podcast où on raconte des histoires et c'est normalement enregistré devant public. Et les participants, ceux qui racontent les histoires, n'ont pas leurs notes devant les yeux. Donc, ils ont tenu leur premier événement virtuel il y a quelques semaines. Ils ont utilisé, comme plusieurs, la plateforme Zoom pour diffuser les performances à distance. Je n'ai pas vérifié comment ça s'est passé, en fait. Mon feeling, c'est que la personne s'enregistrait et il y avait quand même un public à l'autre bout, c'est-à-dire que plein de gens se joignaient à la performance. Parce que ça peut être froid, une performance à distance comme ça, si on n'a pas de public. Comme ça, s'il y a un public, on voit les visages de tout le monde, on voit les réactions, on entend les réactions. C'est quand même un peu plus le fun que juste faire sa performance dans le vide. Je vais vous dire, j'en sais quelque chose. Je continue d'enseigner à mes étudiants. Et moi, je leur demande d'ouvrir leur caméra. Au début, parce qu'eux, à leur âge, autour de la vingtaine, il y a une certaine gêne. Ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de ce que les autres vont dire d'eux, etc. Donc, ils ferment leur caméra, ils ferment leur micro. Ils veulent pas que les autres les voient, les entendent. Pourtant, quand je fais du suivi individuel, il n'y a aucun problème. Et c'est difficile. Les premières semaines, je l'ai fait là, enseigner à une trentaine, 25, 30 étudiants à distance avec des micros et des caméras fermées. C'est extrêmement difficile. Donc, je ne sais pas comment ça se passe exactement pour The Moth. J'ai pas écouté non plus parce que je suis pas sûr qu'ils ont déjà mis ça en ligne. Ça prend quand même quelques semaines pour eux à produire les nouvelles émissions. Donc, ça risque de changer la dynamique. Ça risque aussi de changer les choses. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que des gens à distance comme moi qui ont toujours voulu aller assister à un événement de The Moth, Je peux le faire maintenant. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre le résultat. Et j'ai failli déjà y aller parce que The Moth viennent parfois à Burlington, au Vermont, qui n'est pas si loin que ça de chez moi. Donc, j'ai hâte d'entendre le résultat. Et puis, ben, peut-être que je vais vous en reparler dans une prochaine émission. Je vous ai dit que j'allais parler de prix Pulitzer. Ben, il y a un nouveau prix Pulitzer qui est remis au meilleur reportage, au reportage audio. Et, surprise, il a été remis à This American Life pour un épisode de podcast qui s'appelle The Out Crowd. Évidemment, ça n'a pas été remis à un reportage en particulier parce que la façon que c'est soumis par émission, donc par pour un épisode complet. Et dans un épisode de This American Life, il y a souvent plusieurs histoires, il y a plusieurs reportages qui sont faits. Donc, je ne sais pas s'il y en a un en particulier ou c'est pour l'ensemble de l'épisode, mais c'est vraiment intéressant parce que, comme vous le savez, This American Life, c'est une émission qui est produite par la radio publique américaine, qui est un des leaders de la diffusion en podcasting depuis de nombreuses années. Quand on parle de radio publique aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec Radio-Canada. Le financement est vraiment pas le même. Oui, il y a un petit peu d'argent du gouvernement, mais en réalité, c'est beaucoup les dons du public qui font vivre cette initiative-là. Donc, This American Life, avant d'être en podcast, oui, ça avait une certaine portée, une certaine écoute aux États-Unis parce que c'est rediffusé sur les différentes chaînes du réseau, mais ça a explosé depuis que c'est en podcasting. Là. Le podcasting est le moteur de cette émission-là. Donc, si un Pulitzer a été remis à une émission qui est aujourd'hui un petit peu plus diffusée en podcasting qu'en mode classique, si ça peut aussi contribuer au rayonnement du podcasting, ben c'est sûr que je ne vais pas m'en plaindre. Je vous fais jouer une autre chanson de Alain Bachung et je vais terminer avec les sujets qui me restent. Ça s'appelle Montée vidéo.
J'ai mis du vent sous mon chapeau. J'ai mis du tango sur ma peau. J'ai mis du son, j'ai mis du silence et de l'eau. J'ai mis du sens à tous les mots. Tu vois, ça fait longtemps que je me déguise là-bas. J'ai laissé tomber mes valises. Il y avait des cerfs-volants qui flottaient sur la mer au sud de Montevideo. Quelques milliers d'amants qui s'embrassaient par terre. Et j'ai failli tomber de haut. J'ai mis du temps pour oublier que je t'aimais trop. J'ai mis du temps à te faire la peau. J'ai mis du vent sur ma moto. J'ai mis du vertige et de l'eau. Tu vois, ça fait longtemps que je me fais peur. Des fois, je me dis que je vais m'enfuir avant l'heure. Il y avait des cerfs-volants qui flottaient sur la mer au sud de Montevideo. Il y quelques milliers d'amants qui s'embrassaient par terre. Et j'ai failli tomber de haut. Il y avait des cormorans qui fixaient les falaises au sud de Montevideo. Quelques milliers d'enfants qui chassaient les sirènes. J'ai dérivé jusqu'à Rio.
Oui, Montevideo de Alain Bachung. Moi, Alain Bachung, c'est toujours quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, beaucoup respecté, parce que son travail est, je trouve, hautement créatif. Sa façon d'écrire des paroles, et il l'a fait pas nécessairement seul, il l'a fait aussi avec d'autres gens, mais ça ressemble beaucoup à du collage. Il y a vraiment une façon d'écrire particulière. Des fois, je me dis, ça devait être difficile à apprendre par cœur parce que il y a un fil conducteur, mais il n'y a pas nécessairement un fil continu entre les différentes phrases, toujours. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé ces trucs dans les années 80, début 90. Après ça, il a un peu disparu, tout ça. On l'a moins vu. Et là, il est revenu fin des années 2000 avec Bleu Pétrole, un album que j'ai adoré. Et même que je me rappelle, la première fois que j'ai entendu la chanson Hier à Sousse, je me rappelle où j'étais. Je m'en allais à l'épicerie, j'habitais Montréal. Je me rappelle que c'était dans une émission de Patrick Masbourian. Et puis, j'ai entendu ça, j'ai fait comme « Wow, c'est excellent! » J'ai beaucoup écouté cet album-là, Bleu Pétrole. Il m'a beaucoup accompagné durant ces années-là. Ça a été un album important. Puis aussi, ben, après ça, quand il est décédé l'année suivante, c'était un album que j'ai beaucoup écouté par la suite aussi. J'ai failli aller, en fait, j'ai eu une grosse tentation d'aller le voir en spectacle. Il y avait des billets qui étaient à vendre à un moment donné, puis on pouvait s'en procurer d'ici. Je me rappelle pas si c'était un voyage organisé ou quoi que ce soit, mais en tout cas, bref, je m'étais vraiment informé, puis j'ai passé à deux doigts de remplir ma carte de crédit juste pour partir avec ma blonde, se faire un trip, aller voir Bachung durant ses derniers spectacles. Je regrette un peu de ne pas y être allé parce que vraiment, c'est un de mes héros musicaux. Mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas tous les voir, tous les faire. J'avais dit que j'allais vous parler de Cube Music, qui est la nouvelle plateforme de musique en continu de Québécois. Le but de Cube Music, qui est le penchant musical de, ils ont lancé Cube Radio. Donc, c'est un peu une extension de la marque Cube, écrit QUB. Donc, le but, c'est de mettre de l'avant la musique québécoise, évidemment. Selon leur dire, ils veulent offrir la visibilité aux artistes québécois que les plateformes étrangères, comme Spotify et Google Play, n'ont jamais pu donner. Ils veulent aussi mieux rémunérer les artistes québécois. Tout ça est très louable. Évidemment, ce n'est pas la première initiative en musique de Québécois. Ils ont essayé il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, Zik.ca, auquel j'ai jamais payé ou rien fait sur Zik.ca. Évidemment, à cette époque-là, j'étais beaucoup abonné à iTunes, dans le sens que j'achetais mes trucs là. C'est en version bêta depuis le 4 mai, donc ça fait simplement quelques jours. Ils disent de quelques mois, le lancement de ce service-là à cause de la COVID, justement pour offrir un service pendant que les gens sont à la maison, tout ça. Évidemment aussi, c'est un petit peu pour profiter, veux pas, de la situation. Ce qui n'est pas mauvais, c'est gratuit jusqu'au 31 juillet 2020 pour les résidents du Québec. Par la suite, les abonnés du service de téléphone cellulaire de Vidéotron vont payer 4,99 par mois. Et pour les autres qui ne sont pas abonnés au service de téléphone cellulaire de Vidéotron, ce sera 11,99 par mois. Encore une fois, Vidéotron essaye de nous mettre de l'avant une gimmick dans l'écosystème Vidéotron. Où est-ce que, en fait, je dis Vidéotron, c'est plutôt québécois, là. Essaye de nous mettre quelque chose qui est vraiment dans cet écosystème-là pour rendre les gens prisonniers. Encore une fois, je me dis pourquoi il n'y a pas un prix moyen qui est offert et qui est le même pour tout le monde, plutôt que faire payer 11,99 pour les gens qui ne sont pas abonnés au service de Vidéotron. Je pense pas que ce sera quelque chose qui va inciter les gens à passer chez Vidéotron. Je veux dire, la musique québécoise est souvent disponible ailleurs. Évidemment, moi, je suis tout à fait content s'ils disent qu'ils vont mieux rémunérer les artistes québécois. On le sait, le problème de la rémunération des artistes québécois, c'est que lorsqu'ils font affaire avec une plateforme qui est globale comme Spotify, ben, le taux d'écoute n'est pas en mesure de compétitionner avec les artistes mondiaux. Fait que si on a des artistes mondiaux qui lancent un single et là, quelques semaines après, il y a 2, 3, 4 millions, 10 millions d'écoutes versus un single québécois qui a 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 écoutes. C'est pas la même chose, évidemment. La rémunération est souvent divisée en pointe de tarte entre tous les joueurs. Puis évidemment, quand tu as des joueurs qui, en pourcentage, n'ont pas beaucoup, ben ils n'auront pas beaucoup de sous, évidemment. J'imagine qu'ils vont redistribuer mieux cette pointe de tarte-là. Et bon, évidemment, que ce sera, vu que ce sera juste de la musique québécoise, ce sera juste les musiciens et artistes québécois qui vont pouvoir y avoir accès à ces sous-là. C'est une bonne initiative, c'est correct. On verra quelle sera la viabilité de ça. On verra quels artistes embarqueront. Est-ce que c'est tous les artistes, tout ça? D'un autre côté, je me demande toujours pourquoi Québécois ne met pas de l'avant le projet Éléphant de films québécois. Parce que, comme je l'ai dit, la musique, on peut la trouver ailleurs. Il y a plein de places. Par contre, les films québécois des années 70, 80 et même avant, certains classiques sont trouvables nulle part. On peut même pas les louer nulle part en ligne. Pourtant, Québécois est derrière le projet Éléphant, est derrière un projet de numérisation de ces films-là. Et même quand ils sont numérisés, ils ne sont pas disponibles. Et je ne comprends pas pourquoi. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Mais si c'est pour faire une autre plateforme pour rendre les gens abonnés des services de Vidéotron prisonniers, ben je pense qu'ils pourraient passer leur tour. Je vais vous parler de Spotify et particulièrement des podcasts de Spotify, en fait, le service de podcasting. Ils ont lancé Podcast Playlist, donc des listes de lecture de podcasts sélectionnés. Pour l'instant, c'est seulement dans 6 marchés. C'est pas au Canada. Je me rappelle que c'est au Mexique, aux États-Unis. De mémoire, je crois au Brésil. En Europe, je me rappelle pas où, mais c'est dans 6 marchés actuellement. C'est du curated content, donc c'est du contenu qui est sélectionné pour sa qualité. Et c'est non seulement sélectionné pour la qualité, mais c'est aussi sélectionné de façon géolocalisée. En ce moment, il paraît que c'est fait à la main. Donc, on fait des choix. C'est des gens qui choisissent des podcasts de meilleure qualité en fonction des marchés, donc des différents endroits. Si c'est plus urbain, si c'est plus dans la campagne ou plus rural. Et aussi en fonction des pays et des endroits où est-ce que c'est. Donc, Spotify, avec le rachat de Gimlet et depuis que les podcasts sont disponibles sur sa plateforme, est en train de devenir vraiment un joueur majeur de la balado. Ils sont en train aussi de migrer certaines choses vers la balado parce que Spotify est rarement rentable. Ça arrive un trimestre à l'occasion. Mais le problème, c'est qu'au départ, ils ont mal négocié certains droits, ce qui fait en sorte que leur service de musique n'est pas rentable. L'autre chose, c'est que C'est une start-up, c'est une compagnie qui mise beaucoup sur le développement en ce moment, qui est toujours en mode développement, ce qui fait en sorte que ça coûte beaucoup de sous développer. En même temps, depuis le temps que c'est en service et au nombre d'abonnés qu'ils ont à travers le monde, je ne peux pas croire qu'ils ne pourront pas devenir rentables à un certain moment. Devenir rentables, je veux dire, tous les trimestres d'une année. Ils font différentes choses en balado. Donc, je vous l'ai dit, ils ont racheté Gimlet Media. Donc, au début, ils ont transféré les podcasts de Gimlet Media. Et là, maintenant, ils développent de plus en plus du contenu unique. Il y a aussi Netflix et ESPN qui ont fait un partenariat avec Spotify justement pour créer quoi? Une liste de podcasts, encore une fois, dans le cadre du lancement du documentaire sur Michael Jordan. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, j'ai vu, j'ai écouté un petit bout. C'est vraiment intéressant parce que moi, à l'époque, dans les années 80, à l'époque de Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, nommez-les, les grands joueurs de basketball de l'époque, j'écoutais le basketball. Pas de façon religieuse, pas toutes les semaines, mais ça m'intéressait beaucoup. C'est un sport que j'ai toujours beaucoup aimé. Et étant donné qu'il y avait des si grandes vedettes, moi, je me rappelle de certains championnats, justement, des Bulls à l'époque. C'était magique. C'était vraiment du bonbon d'écouter ça. Donc, ça montre l'importance grandissante des podcasts dans le marketing mix aux États-Unis, ce genre d'initiative-là. Si Netflix et ESPN ont fait pas un podcast, mais vraiment développer des listes de podcasts dans le cadre du lancement d'un documentaire, c'est quand même assez incroyable. Donc vraiment, de plus en plus, le podcasting fait partie du marketing, fait partie des campagnes et ça, ça va juste grandir avec le temps. Pour soumettre son podcast à Spotify. En théorie, la façon de faire est simple. Ça ressemble à iTunes. On soumet notre fil RSS, puis là, après ça, bien, on rentre des informations, et etc., etc. Sauf que je me suis buté à la première étape. Évidemment, mon podcast était en dormance depuis 3 ans. Je ne l'ai pas inscrit sur plusieurs plateformes, dont Spotify, depuis qu'ils ont ouvert, pas juste à leur propre podcast, mais à tous les créateurs de podcasts à soumettre leur émission. Donc, c'était tombé un peu à travers les cracks, je dirais, de soumettre mon podcast à Spotify. J'ai essayé de le faire, ça ne marche pas. Pourquoi? Ils n'acceptent pas les podcasts qui ont des vidéos dans leur fil RSS. Et même si mon podcast, écoute, je vous dis ça, là, je sais qu'il y en a plusieurs qui n'ont jamais vu une vidéo de mon podcast, c'est normal, ça fait quelques années, je crois que j'ai fait 2 ou 3 épisodes en vidéo, c'est tout. Donc, ils n'acceptent pas les podcasts qui ont des vidéos. Évidemment, je comprends parce que c'est une plateforme qui est vouée à l'audio, qui est vouée à la musique. En même temps, de refuser tout fil RSS dans lequel il y a même un seul épisode en vidéo, c'est un peu niaiseux. Surtout comme le mien, je suis rendu à 90 épisodes, 2 ou 3 épisodes en vidéo. C'est rien. C'est une goutte d'eau. Donc, j'ai trouvé une solution. Il me reste à la mettre en place. C'est pas une solution qui se fait en claquant des doigts. Ça va prendre quelques heures de travail. Aller jouer encore dans mes anciennes publications. Aller retirer la version vidéo de l'imbrication dans le fil RSS. Peut-être que je vais juste mettre une version audio. Mais quand même, si vous allez sur mon site, ils seront toujours visibles dans un player. Donc, il me reste à jouer avec ça pour faire tout ça. Mais évidemment, j'espère de régler le problème pour pouvoir soumettre mon podcast finalement à Spotify. C'est déjà la fin. Ça n'a pas fait mal. C'était agréable. On a eu du plaisir. Si vous voulez savoir si je suis fatigué quand je fais un podcast, et ça, c'en est un bon exemple aujourd'hui, je bafouille. Je trébuche sur des mots sur lesquels j'ai pas de difficulté normalement. Ça, c'est un signe qu'il est tard, il est passé minuit, puis je suis encore en train d'enregistrer, puis j'ai une longue journée. Je devrais pas faire ça. Mais la tentation de parler dans le micro était trop grande en fin de soirée, donc et mes notes étaient déjà prêtes. Je me suis dit, c'est le temps, j'y vais. Pour, j'espère, le plus grand plaisir de vos oreilles. Donc, si vous voulez me faire plaisir, me rendre l'appareil, c'est-à-dire m'offrir un salaire, allez mettre des étoiles ou écrivez des commentaires sur la plateforme de podcasting de Apple ou dans votre agrégateur de podcasts préféré. Je sais que mon podcast est visible sur certains agrégateurs pour Android. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire à mon groupe Facebook. Vous pouvez m'envoyer des commentaires par courriel à quebecbalado@commercial.gmail.com. Je vous laisse avec une dernière chanson de Alain Bachung de cet album-là qui s'appelle En amont. Donc, la chanson s'appelle Nos âmes à l'abri. Évidemment, c'est un petit peu mélancolique. Évidemment, les chansons étaient pas mal mélancoliques. Celles que j'ai sélectionnées, il y en a qui bougent un petit peu plus que ça dans cet album-là, mais c'est celles que je préférais, puis je trouvais qu'il y avait une belle cohérence audio. Je vous laisse avec Nos âmes à l'abri. Je vous parle, évidemment, très très bientôt, je l'espère, mais je ne vous fais pas de promesses. Ciao!
Marcher tout l'hiver dans la poudreuse jusqu'à la maison fleurie. Sous les montgolfières, nos vies heureuses, que demander au Seigneur? On a fait de nos mains la pluie et le beau temps, un salon, un jardin, l'amour des paravents, pour mettre nos âmes à l'abri. Mettre nos âmes à l'abri. Des vues imprenables tombées du ciel et nos regards s'attendrissent. Le temps d'une escale goûtée au miel d'un tout nouveau précipice. Que nos pas dans la neige nous redonnent la grâce, l'illusion d'un cortège, le parfum à la glace, de mettre nos âmes à l'abri, mettre nos âmes à l'abri. Mettre nos âmes à l'abri. La douceur tombera comme une coulée de plomb. On se relèvera la nuit sur le balcon pour mettre nos âmes à l'abri,
mettre nos âmes à l'abri.